Une réaction, Daniel Maximin, qui vient de nous rejoindre et qui, lui aussi, est poète, lui aussi, a l'habitude d'entendre les politiques. Oui, vous êtes poète, vous êtes également essayiste, vous avez publié un recueil de poèmes intitulé « L'invention des désirades », c'était en 2009, et puis Aimé Césaire, Frère Volcan, c'était au Seuil en 2013. Donc vous avez l'habitude également de jeter un regard sur la politique, Daniel.
Un des plus grands poètes, Aimé Césaire, a été un des plus grands députés et le plus long du XXe siècle à l'Assemblée. Il peut donc y avoir coïncident, puisque les gens de droite comme de gauche rentraient chaque fois qu'il parlait, une fois par an pour le budget de l'Outre-mer, pour entendre ce qu'il allait dire, pour entendre sa forme. Voilà. Et donc, la politique est détruite toujours par le langage, ce qu'on appelle la langue de bois. Alors parfois, pour essayer de persuader, ils vont essayer de mettre en effet un peu de basilic en citant des poèmes. Et il faut que ça soit rimé pour que l'auditeur comprenne. C'est de la poésie, c'est évidemment l'inverse. Et quelque part, la poésie, elle se venge en laissant annonner ces rimes riches et ces rythmes dits musicaux à des contenus qui ne disent pas ça. Donc la poésie se défend, elle résiste, y compris aux récupérations, parce qu'elle est, comme je dis souvent, irrécupérable.
Mais comme l'a rappelé Frédéric, il y a des poètes, de grands poètes, qui ont été des politiques, ou en tout cas, qui ont eu un rôle politique. Lamartine, Hugo, par exemple, c'est quand même étonnant.
Non, pas du tout, parce que le sincère qui veut s'occuper de la chose publique, c'est pour l'autre. Et donc, quelque part, si vous voulez, il y a juste une chose, c'est que la poésie, elle est toujours au-delà. Même si, comme Lamartine, on est engagé, même si, comme Charles, on est dans la résistance, c'est à côté. On ne va pas mélanger son fusil et son stylo. Et quelque part, alors, la raison fondamentale, c'est que la poésie, elle est au niveau de la liberté, c'est ça son but, et donc elle ne se contente jamais des libérations. Elle n'est pas dans le court terme, elle est dans le hors d'âge.
Justement, on va entendre René Char lire l'un de ses poèmes.
Redonnez-leur. Redonnez-leur ce qui n'est plus présent à eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur de la chute à l'essor les 12 mois de leur visage. Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant, car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres. Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoi qu'il ait tout perdu.
La voix de René Char lisant l'un de ses poèmes extraits de Fureur et Mystère, le recueil de poésie issu de ses années de résistance. Il lui est arrivé quand même quelque chose de terrible à René Char. Il est devenu cité, je l'ai dit tout à l'heure, on l'entend souvent évoqué dans des discours de politique et malheureusement, je ne sais pas s'il est bien mis en valeur. Votre
Char échappe naturellement à la façon dont il est cité. Mais en revanche, pour en revenir à cette relation entre le poétique et le politique qui me passionne, bon, j'ai oublié de signaler tout à l'heure que De Gaulle pratiquait l'alexandrin naturel. Je m'en souviens d'un extraordinaire. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Bon, c'est évidemment un alexandrin qui sort d'on ne sait où. Peut-être Malraux lui a transmis, mais bon, mais il y a une sorte de rhétorique dans le discours qui n'oppose pas forcément le politique au poétique. Mais pour aller encore plus loin, je pense que faire de la poésie est une tâche politique de première importance.
Pourquoi ?
Mais pourquoi ? Tout simplement parce que elle réinvente de nouveaux espaces imaginaires continuellement. Et on a besoin de ça plus que jamais aujourd'hui, où on est soumis à ce déferlement d'images ou de pseudo-images dont on parlait tout à l'heure, alors que la poésie reste la science des images véritables, des images capables de toucher, des images capables d'émerveiller, des images capables de susciter un sentiment profond de révolte à l'encontre du monde tel qu'il va,
Mais je ne sais pas si les politiques lisent encore beaucoup de poésie. Par exemple, Blum citait du Mallarmé parce qu'il lisait du Mallarmé, même quand c'était compliqué. Christiane Taubira a évidemment un rapport qui est un vrai rapport à la poésie. Je l'avais entendu d'ailleurs dans une discussion avec Hervé Mariton, parlant de poésie, donc c'est pas du tout fin. D'autres n'ont pas ce rapport. En tout cas, Daniel Maximin, vous, ça vous étonne pas du tout, ce rapport entre poétique et politique?
Que, d'abord, il y a des politiques sincères.
Il y en a aussi.
Évidemment. Et donc, il n'y a pas une opposition d'un côté. Par contre, la différence, c'est le langage. La poésie, pourquoi elle est essentielle, quoi qu'on dise? C'est parce que c'est elle qui respecte les mots, respecte le vocabulaire, respecte la musique, se met à son service. Et quelque part, tout ce qui est, comme je dis, langue de bois, tout ce qui est persuasion de l'autre en essayant d'utiliser la grammaire, le vocabulaire pour le tromper ou pour le persuader, la poésie résiste à cette chose-là et elle impose. Et d'autre part, il y a autre chose, je disais, c'est la liberté, parce que, encore une fois, c'est là où on va le plus loin dans le non-asservissement au langage. Vous voyez, le dictateur aimerait bien que les auditeurs soient aliéné par ce qu'il dit, soit aliéné, ne comprenne pas ce qu'il dit, adhère sans comprendre. Et la poésie vient échapper et faire quelque chose qui va faire résister à cela.
Et puis, il y a une manière également très populaire en France, que j'aime beaucoup, d'apprécier la poésie, c'est la poésie chantée. Alors, beaucoup de grands noms qui ont chanté de la poésie. Peut-être que le premier qui vient à l'esprit est celui de Léo Ferré. On l'écoute.
C'est un lieu commun, hélas, mais la poésie ne se vend pas, n'est jamais vendue, ne se vendra jamais, ne se lit pas, et n'est lue que par quelques maniaques, dont nous sommes, ou par des universitaires qui, la plupart du temps, la lisent mal, ne savent pas la lire. Et par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui, habituellement, ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc. C'est ce qu'on appelle de l'art, quoi. Et l'art, c'est le trucage noble.
La voix de Léo Ferré, et ça, c'est une tradition qui, peut-être, n'est pas encore complètement légitime en France, l'est complètement dans le monde anglo-saxon. Jean-Marc Barre, vous qui êtes à cheval entre ces deux mondes-là, il y a évidemment, aux États-Unis par exemple, des chanteurs qui sont perçus comme poètes et réciproquement. On pense à Dylan, on pouvait penser à Leonard Cohen. Votre regard là-dessus, Jean-Marc?
Il y avait aussi Woody Guthrie, qui était bien avant et qui a vraiment emmené un discours populaire à tout ce qui se passait pendant la Grande Dépression. Et je pense que les gens comme Dylan et les chanteurs sont des poètes, mais il y a le support de la musique. Et donc tout d'un coup, ça crée un autre monde. Je pense qu'il y a une pureté dans la poésie. Qui le rend spécial, qui a besoin de ce silence, qui a besoin de ce terrain de communication. Et justement, comme vous disiez...
Daniel Maximin.
Daniel, c'est que il y a une ponctuation, il y a des choses à respecter. Et dans cette connaissance-là, on peut peut-être faire traverser des messages qu'on ne communique pas normalement, parce que la société ne veut pas. C'est un terrain de sincérité, comme vous avez dit, et oui, un endroit privilégié humain, quand tout d'un coup, c'est partagé dans cette sincérité.
Qu'en pensent nos deux poètes, Zeno Bianou?
Pour moi, par exemple, pour aller sur un exemple central, dans mon parcours, Dylan a joué un rôle formidable au sens où il faisait la jonction entre la poésie et le rock. C'est un peu comme si tout d'un coup on avait mis Whitman et Elvis Presley ensemble, et c'est cette force détonatrice. Par exemple, quelqu'un comme Dylan, aussi bien que quelqu'un comme Leonard Cohen, se sont toujours revendiqués comme poètes au sens où leurs textes tiennent le coup en dehors de la musique, si on les lit et s'ils sont bien traduits naturellement. Donc ça c'est quelque chose d'important. Léo Ferré, ses textes tiennent le coup. Donc c'est de la poésie, pour aller vite, hein.
Donc ça me choque pas
pour la bonne raison que je fais beaucoup de lectures publiques avec des musiciens.
Non, vous aimez beaucoup le jazz, par exemple.
Donc il y a ce rapport continuel entre deux types de musique qui me passionnent. Donc, je crois pas que je serai un jour de ceux qui disent pas de musique au pied de mes verres, quoi.
Daniel Maximin.
Oui, parce que la poésie, c'est elle qui va chercher la musique des mots. Elle n'est pas en opposition à cela. Et quand on veut plaquer une musique en disant que comme c'est pas bien, c'est pas assez populaire, on va mettre une musique dessus. Non, c'est parce qu'il y a déjà cette connivence entre les deux. Ouais. Et quelque part, alors, de manière, je veux dire, naturelle, les choses vont ensemble. N'oublions pas, quand on parle de Woody Guthrie ou bien de Dylan, qu'ils ont lu aussi des poètes, y compris français, et que ça vient d'un ensemble. Je voudrais donner l'exemple pour dire que c'est pas si spécifique que ça aux États-Unis. Face à nous, on dirait la poésie s'intéresse pas. Les deux des plus grands succès de disques des générations, ça a été quoi? Ferré chante Aragon. Ferra chante Aragon. Serge Reggiani chante les poètes. C'était des best-sellers et qui ont amené alors à la poésie des gens à qui on avait dit « c'est pas pour toi ». Ça n'est pas parce que les gens n'entendent pas la poésie, c'est parce qu'on leur a dit que ça n'est pas audible. Moi, mon père m'avait dit tout jeune, c'est pas pour comprendre, il faut prendre. Et regardez la musique. Oh, quelqu'un qui ne connaît rien du solfège va passer ici, va entendre un son. Ah, c'est joli, ah, c'est bien, ah, j'aime. Il n'est pas bloqué par quelque chose. On a dit, ah non, il faut d'abord que tu saches la composition, les choses de ce genre. Autrement dit, la poésie est naturelle. Et donc, elle rencontre le chant, c'est naturel. Et quoi de plus magnifique que ces chansons de Jean Ferrat, ces chansons de Léo Ferré, et qui ont donné une dimension populaire totale à des textes qu'on aurait dit pas faits pour les gens, pas faits pour le peuple.
Là, effectivement, ce sont des chanteurs qui chantent des poètes. Il y a aussi des chanteurs qui ont chanté leurs chansons avec une dimension poétique. On a, par exemple, un extrait justement d'une interview de Brassens. À ce sujet, on écoute Georges Brassens.
Je ne savais pas tellement où j'allais en faisant ces chansons. J'ai été le premier étonné de voir cette espèce de retentissement. Il doit y avoir une petite note de poésie là-dedans et les hommes y sont sensibles. Heureusement d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous reste de la civilisation, c'est la poésie. Petite étincelle que chaque homme au fond a en lui, quel qu'il soit, le pire comme le meilleur. Le tout, c'est d'aller la trouver. Et grâce à certaines chansons, il m'arrive de frapper une touche qui est dans un homme, de pincer une corde qu'il avait, qu'il ignorait. Et cette corde se met à sonner parce qu'un type, moi en l'occurrence, l'a fait vibrer.
Zenobianou, qu'est-ce que vous en pensez alors?
Oui, il y a une modestie fantastique chez les auteurs-compositeurs. Souvenez-vous de Gainsbourg qui disait que la chanson est un art mineur. Donc, et pourtant qu'il l'a propulsé dans des lieux vraiment les plus rythmés, les plus lumineux qui soient. Donc, pour moi, je ne fais aucune séparation du moment qu'il y a une charge poétique, d'où qu'elle s'exprime, puisque tout à l'heure on parlait de la poésie à un niveau le plus global. Si ça fonctionne comme de la poésie, si ça fonctionne comme cette aptitude particulière du langage à produire plus que lui-même, quel que soit le langage, y compris cinématographique, on ne va pas entrer non plus dans toute la poésie cinématographique de Murnau à Kubrick, etc. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas simplement un mot passe-partout, c'est un mot fédérateur.
Jean-Marc Barre sur la poésie cinématographique.
Ben, je pense qu'une photo, c'est un instant, c'est un poème du temps, de ce moment, et que quand on fait un film, quelle grande poésie qu'on peut faire. Quand c'est souligné, quand on nous demande, quand on nous dit ce qu'il faut y croire, moi j'y crois pas. Quand c'est présenté d'une manière abstraite, peut-être un peu absurde, mais où il y a une vérité qui est évidente et pas dit, moi je suis très excité. C'est ça la communication.
Et les cinéastes avec qui vous avez travaillé, Jean-Marc Barr, Lars von Trier par exemple, il y a une poésie chez lui évidente.
Bah oui, j'ai de la chance d'avoir travaillé avec lui parce que En Europe, on a une grande histoire de cinéma. Il respecte cette tradition. En plus, il est très fidèle à essayer de toucher les gens. Mais il trouve un nouveau moyen de le dire. Et oui, le cinéma poétique de Von Trier, comme le cinéma poétique de Kubrick ou de Godard, c'est des mondes qui nous laissent rentrer dans un terrain cultivé, riche, plein de possibilités.
Et puis, il y a aussi la poésie poétique. Daniel Maximien, je vous ai demandé de venir avec l'une de vos poésies et de nous la faire entendre. On va donc vous écouter.
Être poète, livreur de chants d'amour et d'alarme, chanter pour respirer, écrire pour inspirer. Embarqué dans tous les déluges, on désaltère les fontaines. Dans le désert, seul voué à la Nouria, horizon vertical. Poète, on vit, on meurt de récuser les maîtres, les monstres, les murs et les armures. Car au-dessous des tombes et des charniers, au-dessus des gibets, des croix et des statues, au-dessus des micros, des codes et des prières, quand les dieux n'ont pas l'œil sur leurs écritures, il y a la floraison des paroles de pollen, de sang, de sève et de cisale, l'horizon éclairé par le poète Vigie. Alors, une feuille en sentinelle relève les mots de passe hérités du silence à la sortie du temps. La poésie tourne avec la terre, sans les bornes des terriens. Elle guide les chiens d'Orion jusqu'au tombeau des prophéties, colporte la liberté sur les désespoirs antérieurs, éclaire l'astre sur le désastre, le rythme sur le chaos, offre des ailes à Ariel, des sandales à percer, vole un tapis pour Sherazade, relais de colibri sur l'hécatombe des rossignols. Chaque feuille en appelle une autre pour offrir un lendemain à sa fin, la chute solaire du fruit de création.
Merci beaucoup, Daniel Maximin. Comment écrit-on de la poésie, Daniel Maximin? Est-ce que vous qui avez écrit différents types de textes, comment sait-on qu'on va écrire de la poésie et pas un essai ou pas une intervention?
En se laissant aller à la musicalité des mots, en ne se préoccupant pas uniquement du contenu, du message à transmettre. Et c'est pour ça que la poésie, elle est aussi dans un film, dans une séquence, dans un plan séquence, dans un tableau. Ça n'est pas une coloration générale, c'est un mode de relation qui fait une légère distance par rapport à ce qu'on veut dire. Et du même coup, il faut passer par quelque chose, briser le langage, le vocabulaire, les choses, libérer le langage, libérer le tableau, libérer la musique, et c'est en ce sens qu'elles deviennent poétiques. En gros, on passe du cri qu'on a tant envie de proférer quand on regarde le monde à quelque chose qui est le silence, et ensuite ça arrive au chant. Il faut beaucoup de silence au cri pour devenir un chant. C'est un peu une définition de la poésie, de l'acte poétique.
Zeno Bianou, même chose, comment faites-vous pour écrire de la poésie?
On est parlé d'une certaine manière, je ne dirais pas que c'est, ça dicte d'une certaine façon, comme le disait Rimbaud dans La lettre du voyant. Rimbaud qui me rappelle immédiatement à tout ce que vient de dire Daniel dans L'évidence et le chant, et dans son fameux poème Sensation, qui a tellement compté pour moi, puisque c'est un poème que j'ai découvert tout en découvrant la poésie, à l'âge où Rimbaud l'écrivait, en fait, il avait moins de 16 ans. Mm-hmm. Je le lirai bien, d'ailleurs, si vous le voulez.
Eh bien, on va vous
parce
entendre.
Que y a tout là-dedans. Mm-hmm. C'est Pre-Beat Generation, on peut y lire tout Rimbaud par ce prisme. Donc,
vous écoutons,
Sensation. Zéno. Déjà le titre, Sensation. Le titre n'est pas intellect, le titre est Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Donc, il y a toute l'idée de la partance, du départ qui est si puissante chez Rimbaud, d'échapper. Enfin, il y aura toujours des Charleville et des Rimbaud pour les fuir. Donc il y a toute une magie dans cette poème. Il y a la magie de la sensation, et d'appeler un tel poème sensation, c'est-à-dire de trouver une forme d'être finalement supérieure. Rimbaud, évidemment, le pensait pas philosophiquement comme ça, mais il le pensait avec sa pensée qui chante, c'est-à-dire avec la poésie. Et il y a, bon, il y a aussi un désir formidable d'être dans l'évidence des choses. Je ne parlerai plus, je ne penserai rien. Dire, c'est aussi un poème méditation, où on se laisse aller à toutes les formes du vide, de la vacuité lumineuse. Bon, c'est aussi un poème bouddhiste, Rimbaud n'en savait rien, mais c'est comme ça que je le vois. Donc c'est une clé d'accès privilégiée à une autre forme de perception des êtres et des choses, comme on le disait déjà tout à l'heure, et non seulement à une autre forme, mais à une forme supérieure, qui est totalement passionnante pour l'avenir humain, surtout par rapport au présent qui n'en est plus un qu'on nous propose.
Vous savez, Daniel Maximin, la musique, c'est devenu un tube de Robert Charlebois, le Québécois, et qui a été un succès, quelque chose où ceux qui ne lisaient pas ont découvert Rimbaud et ont découvert que c'était pour eux et avec eux. Jean-Marc Barre, je vous ai proposé de venir également avec un autre poème pour le lire. Peut-être que vous pourriez nous faire entendre également votre manière si particulière de lire la poésie, puisque vous êtes le parrain de cette 20e édition du Printemps des Poètes. On vous écoute, Jean-Marc.
Alors, c'est un poème de Zeno qui s'appelle « Reconnaissance à Jack Kerouac ». Tu avances sur ton ruban de vie, tu viens à même le flux du vivant, un seul paragraphe à la vitesse de la vraie vie, crépitant dans la lumière survoltée, tu avances avec les furieux du salut plus loin que les ravins de la mort vers les eaux tranquilles, par-delà les nuées égarantes. All the ghosts are dead. Seul le tempo de ta respiration, seul le tempo de ton implosion, chacun de tes mots est une pierre à magie. Tu avances là où les morts n'ont plus prise, par des chemins de néon entrelacés par des villes aux larmes nacrées, vie et mort, c'est tout un all the ghosts are dead. C'est le message secret du souffle, ce souffle chaud qui maintenant te traverse. Parfois la route est bonne, parfois la route est mauvaise. Tu avances avec toutes tes vies, avec tous tes visages. Nul n'a brouillé les indices, il n'y a plus de labyrinthe. La vie est un bol de cerises juteuses, des gisements de silence, la sève ouverte du feu, la chair sucrée de la voie lactée. Tu la connais cette nuit, autant d'âmes qu'il existe d'étoiles. Le ciel roule à travers toi, tourne la toupie du monde, tourne et tourne. Dans le secret tremblé des nerfs, tu prêtes enfin attention à la splendeur. Les limites se déchirent, l'impossible vient se blottir dans ta gorge. Ta vision devient tactile, tu emmènes amoureusement les mondes avec toi vers le bleu rubis, vers le rouge outre-mer, déferlement scintillant, invocation de celui qui glisse en vertige tendu au fond de lui-même, invocation du visage des étoiles, invocation ininterrompue de la voix si vive, du très vif. Laisse fredonner l'intensité, laisse fredonner la spirale nocturne, laisse la monter toujours plus avant, laisse le chant de la nuit poreuse battre dans tes veines.
Bravo. Merci beaucoup Jean-Marc Barre, c'était très beau. Et merci Zeno Bianou, d'un univers funambule. Et c'est l'un de vos recueils de poésie publiés chez Gallimard. Daniel Maximin, on peut lire de vous L'invention des désirades, réédité en point, et Aimé Césaire, Frère Volcan, c'est au seuil.